commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Au cirque, l'impossible devient un spectacle, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+. Et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix, sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, Big Bang
Station.
Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, culture, pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons du cirque. Petit Manu nous parlera des origines.
Évidemment, parce qu'on sait, moi je sais qu'il y avait les origines du cirque, un peu comme le thème, la comédie de l'art. Bon, avant de vous dire n'importe quoi, je vous dirai ce qu'il faut. J'espère que vous allez bien au mois d'avril, il fait beau, très heureux, content de vous retrouver. Un grand bonjour à tous, de plus en plus les gens qui nous écoutent.
Marie-Christine nous fera un point sur la réglementation des cirques. Et plus particulièrement des animaux.
Et oui, le cirque a ses propres règles, même si elles ne sont pas totalement autonomes. Il évolue dans un cadre juridique très spécifique, supposé au droit commun, ce qui lui confère une organisation juridique particulière. Je vais vous en parler.
Comment le cirque évolue ? Notre invité est la mémoire vivante du cirque, directeur artistique du Cirque Phoenix et du Festival Mondial du Cirque de demain. Pascal Jacob répondra à nos questions. Le cirque, une école de vie intérieure, c'est la chronique de Ponari.
Salut Didier, salut à tous. On va parler de cirque, mais pas seulement des acrobaties et des clowns. Je vais vous montrer comment ce monde fascinant peut réellement stimuler votre bien-être, diminuer le stress et booster votre énergie. Restez avec nous, ça va être magique.
Et pour notre page culture, Kevin va nous faire jouer à son quiz des chansons qui évoquent l'univers du cirque.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et oui, à l'univers du cirque a aussi inspiré certains artistes pour leurs chansons que nous allons découvrir tout à l'heure.
Enfin, Eric nous présentera les clowns de la pop culture.
Salut Didier, salut à tous. Effectivement, sous mon chapiteau, je sors du cirque deux clowns de la pop culture bien connus. Je vous en dirai plus dans ma chronique.
Et main de gants dans une main de velours. Il pense à tous les détails.
J'ai du mal, hein,
main de velours. Oh non, non. Mais... Ah si. Il pense à tous les détails. Qu'il faut, qu'il vaut. On réussit. On donne le meilleur, le best. À votre avis, c'est. Et qui c'est qui a créé l'émission parle comme ça. Je crois qu'il s'appelle un certain Didier.
On peut.
On peut, oui. Je confirme. On l'encourage.
Didier.
Oh, il a un charisme, ça se suffit pas.
C'est pas une charisme.
Pour connaître, voilà. Oh, en tout cas, je le mets bien en valeur.
Bah, merci, Mathieu.
Avec plaisir.
Le cirque est un art présent dans quasiment tous les pays du monde, avec des formes traditionnelles, Asie, Afrique aussi, Europe, Amérique, et des formes modernes, cirque contemporain, nouveau cirque, cirque de rue, etc. La France est l'un des pays où le cirque est le plus structuré et développé. On estime aujourd'hui qu'il existe plus de 700 compagnies professionnelles de cirque sur le territoire français. Le cirque attire 10 millions de spectateurs par an. Mais d'où vient le cirque ? Petit Manu est allé plonger dans les livres d'histoire, dans Chat GPT.
Mais après les bonnes explications de Didier, qui coach, qui dirige, je vais vous donner ce qu'il faut savoir.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Hillary Clinton. David Bouillet. Joe Cocker. Justine Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les ravotas. Non.
Tous les quoi?
L'origine du cirque remonte à l'antiquité romaine, par exemple, qui organise des jeux dans le cirque. C'est vrai qu'avant, il y avait les Romains. C'est vrai qu'ils se battaient Spartacus, Bénur, et ça rappelle des souvenirs. Voilà.
Ulysse 31.
C'est vrai, le dessin animé. Oh là là, ça a qui n'a pas regardé. Il va peut-être en parler. On ne sait jamais. Eric, par la suite. Avec des courses de chars, des acrobaties, des combats d'animaux, des tigres, aux arènes du Lutèce, c'est vrai, à l'époque, bah, c'est comme ça qu'ils se battaient, et les mangeurs, et ils me tuaient comme ça, c'est vrai, des combats de tigres. Ces spectacles avaient une fonction à la fois populaire et politique. politiques pour divertir les citoyens et démontrer la puissance de l'Empire. Voilà, c'est comme ça que les gens se dispersaient. Il y avait beaucoup de violence et les gens venaient, et je me rappelle, la cour, il y avait les tirs et puis à la fin, ils devaient combattre. Voilà. Au Moyen-Âge, les spectacles de rue, la commune de l'Arte, déjà à ce moment-là, je crois que c'était en Italie, voilà, la commune de l'Arte, où les foires ambulantes ont permis aux jongleurs, acrobates, aux dresseurs d'animaux de garder vivante la tradition du spectacle initiant. Mais ces cirques modernes prennent vraiment forme au XVIIIe siècle en Angleterre, grâce à Philip Astley, un ancien cavalier qui crée le premier cirque à chapiteau rond, combinant équitation, acrobatie et clownerie. Des clowns.
Clownerie.
Voilà.
Des clowneries.
On apprend à tout moment. C'est l'innovation et le socle du cirque contemporain. La piste circulaire permettant aux spectateurs d'avoir une vue parfaite sur toutes les performances. Au 19e siècle, le cirque se popularise partout et en Europe, en Amérique, en plus que dit très bien Didier, en Amérique, intégrant des numéros de clowns, des trapézistes et de dresseurs d'animaux exotiques, c'est également à l'époque où apparaissent les grandes familles de circassiens et les troupes itinéraires, c'est vrai qu'ils voyageaient aussi, les troupes, des familles de cirque effectivement, qui voyagent, les grandes familles de troupes itinéraires qui parcourent les villes pour émerger les petits et grands. Au XXe siècle marque un nouvel ère avec l'émergence du cirque sans animaux. Ah ouais, parce qu'il y a des lois maintenant, il n'y a plus de fous, elle va peut-être en parler, j'imagine, Marie-Christine, oulala, on voudra bien suivre, porté par des compagnies comme le Cirque du Soleil où l'accent mis à l'esthétique en performance humaine et le aussi, le cirque devient alors un art plus proche du théâtre, de la danse contemporain, explorant de nouvelles formes créatives. On pense aussi au cirque, au prince Ranier, le papa du prince Albert et de Stéphanie, même si mon rappel c'était présenté par François, par Sergio, il se déplaçait à ce moment-là avant qu'il meure. C'était un grand cirque et on espère qu'ils vont bien, le prince Albert et Stéphanie. Voilà, tout ce qu'on peut savoir, une très bonne explication sur le cirque, mon cher Didier.
Eh bien, merci petit Manu.
Avec grand plaisir, peut-être que vous allez avancer et apprendre des nouvelles choses, je ne peux que l'espérer.
Et Patrick Sébastien a fait...
Ah oui, c'est vrai, le plus grand
cirque à la télévision.
Effectivement.
Et ces 20 dernières années, les questions juridiques liées au cirque se sont multipliées. Statut des artistes itinérants, réglementation du travail et de la sécurité, protection animale, occupation de l'espace public. Près de 60% des Français se disent favorables à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Faisons le point juridique avec Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Les règles et les transitions du cirque. Un statut spécifique pour les spectacles itinérants. Le cirque est classé comme établissement de spectacle vivant, itinérant, ce qui implique des obligations de sécurité du public. Il existe également une charte nationale d'accueil des cirques et des spectacles itinérants qui fixe des règles communes en matière d'organisation, de sécurité et de relations entre cirque et commune. Mais il y a des règles spécifiques liées aux animaux. La loi du 30 novembre 2021 interdit progressivement la présence d'animaux sauvages dans les cirques itinérants avec une échéance fixée au 1er décembre 2028, donc c'est bientôt. En attendant, il n'y a aucune durée maximale journalière précise fixée par la loi, mais il faut éviter la fatigue excessive, il faut un accès permanent à de l'eau potable et de la nourriture adaptée. Il y a aussi une obligation de respecter les cycles naturels de l'animal et lui fournir un espace de repos adapté, une litière, un abri et la température. Un suivi vétérinaire est aussi obligatoire avec des vaccinations notamment. Le transport de l'animal est réglementé, durée, conditions, ventilation, sécurité. Les coûts et dressages brutaux sont interdits. Enfin, les communes peuvent adopter des règlements propres pour les fêtes foraines, cirque, sécurité, hygiène, qui complètent le droit national. Certaines exigent par exemple des dossiers spécifiques, certifications, plans de sécurité, conditions d'occupation du domaine public, avant d'autoriser l'installation d'un cirque.
Eh bien, merci Marie-Christine. En France, il y a environ 2000 artistes professionnels, acrobates, clowns, jongleurs, trapézistes. Comment les artistes et les numéros sont-ils choisis? Comment le cirque s'adapte? Pour répondre à cette question, nous avons au téléphone Pascal Jacob, directeur artistique du Cirque Phénix et du Festival Mondial du Cirque de Demain. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment définiriez-vous le cirque d'hier par rapport à celui d'aujourd'hui?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un cirque d'hier et un cirque d'aujourd'hui, parce que, en fait, le cirque est un spectacle qui ne cesse de se réinventer, de muter. Alors évidemment, on a des formes de spectacle qui sont en accord avec le temps, mais une des particularités probablement, c'est que toutes les formes s'appuient sur un vocabulaire commun, un vocabulaire qui est évidemment très très ancien, le vocabulaire notamment du geste acrobatique ou de la manipulation d'objets, et que donc à partir de ce moment-là, c'est surtout la façon de s'appuyer sur ce vocabulaire qui crée la modernité ou pas. Mais la modernité, elle résonne à chaque étape de l'évolution. Donc oui, d'accord. Évidemment, on est dans un cirque d'aujourd'hui et on est en train, je l'espère, de façonner celui de demain, mais celui d'hier n'a pas totalement disparu. On est plus dans un effet de stratification peut-être que de passage.
Quelle a été la plus grande transformation du cirque en 50 ans?
En 50 ans, ça nous amène en 75. C'est le moment, en fait, où, dans la continuité des événements de 68, en France, mais pas que, hein, c'est une remise en question politique, sociétale, culturelle, environnementale, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est une remise en question d'un certain nombre de codes de représentation et ça va donner naissance à ce qu'on appelle le nouveau cirque, c'est-à-dire une forme qui ne renie pas les origines, qui parfois joue avec l'ironie, la dérision sur ce qui s'est fait juste avant et qui invente de nouvelles manières de séduire le public, de nouveaux espaces aussi. On remet en question le chapiteau ou les grands chapiteaux. On va plutôt vers des formes plus petites, plus légères, plus de lien avec le public ou une autre complicité. C'est une mutation évidemment importante.
Et il y a une formation obligatoire reconnue pour être artiste au cirque?
Alors, le point de bascule dans les années 70, c'est la création des deux premières écoles en Occident, en 1974 précisément à Paris. L'école fondée par Annie Fratellini et Pierre Etex, et l'école fondée par Alexis Grus et Sylvia Montfort. Bah, évidemment, ça change tout, parce que du jour au lendemain, ce qui était une forme très liée à un apprentissage au sein des familles, eh bien, devient une forme qui peut s'apprendre dans une école. Et ces deux écoles, qui sont vraiment un jalon essentiel dans notre histoire récente, vont impulser un mouvement de développement des écoles avec, quelques années plus tard, parce que finalement il y a un processus d'accélération, en 1985, l'inauguration du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, c'est-à-dire le Conservatoire National, comme il y en a un pour le théâtre, la danse ou la musique. Et puis, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine, 130 ou 140 écoles affiliées à la Fédération Française des Écoles de Cirque, avec des écoles de loisirs, des écoles préparatoires, des écoles supérieures. Donc, c'est une vraie filière. Et puis, on voit se développer à travers le monde, via notamment la Fédération Européenne des Écoles de Cirque, et bien des écoles dans d'autres pays du monde et d'autres filières. Il y a une filière assez structurée en Belgique, il y en a une autre en Suisse, d'accord, etc., etc.
Et il y a des numéros qui ont été abandonnés, qu'on ne fait plus du tout?
Alors, il y a des techniques, effectivement, qui sont moins développées aujourd'hui, notamment les pratiques collectives, parce que dans une école, c'est très compliqué, quand les étudiants viennent de différents horizons, de créer un principe de troupe. Donc ces disciplines-là ont tendance à disparaître, des écoles en tous les cas. Et puis il y a des techniques qui disparaissent et qui réapparaissent. Je pense notamment aux équilibres sur une perche qu'on porte à l'épaule ou sur le front, qui sont vraiment devenues très très rares. On a eu un numéro de perche justement avec deux jeunes artistes australiens au Festival Mondial du Cirque de Demain il y a deux ans. Et en fait, ils utilisaient leur perche comme un machinois, donc deux techniques en une finalement, mais avec une vraie virtuosité, puis une manière de faire qui était très actuelle.
Concernant la sécurité, il y a toujours, de nos jours, des filets de sécurité ou autres mesures de sécurité ? Est-ce qu'elles sont obligatoires ?
Alors, la sécurité, elle date pas d'aujourd'hui. Elle est très, 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 très ancienne. Elle est totalement ancrée dans la réalité du cirque. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des risques inutiles. Ce serait stupide. A fortiori, dans une école, évidemment, c'est inimaginable. Donc, mais le principe de sécurité, si vous voulez, là, on peut se référer à une date au milieu des années 20 où en France, le filet est obligatoire. À partir du moment où on n'est plus en contact avec un agrès, donc évidemment dès que l'on est dans le vide, donc on lâche l'agrès, il faut un filet absolument, donc ça ne date pas d'hier, enfin pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est même plutôt avant-hier. Et puis les Soviétiques ont imposé très très tôt, à peu près à la même époque, l'obligation de la longe de sécurité. Ce principe-là, eh bien évidemment, il s'est pas arrêté aux frontières de l'Union, il a grandi et il s'est développé partout dans le monde. Et aujourd'hui, il est inimaginable, évidemment, de risquer sa vie ou de faire risquer sa vie à qui que ce soit pour une prouesse acrobatique. Ça n'aurait aucun sens. Donc les protocoles de sécurité, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les compagnies, sont absolument rigoureux et stricts. Et c'est probablement ce qui renforce la beauté et la magie du geste. C'est-à-dire qu'on peut, s'abandonner à des choses à partir du moment où on sait qu'évidemment on est protégé.
Mais par exemple, sur les équilibristes, il y a toujours eu des filets de sécurité ou d'autres?
Alors, pour les trapézistes.
Trapézistes, pardon.
Pour les trapézistes, oui, parce que le trapèze volant, en fait, il a été créé en France en 1859. Et en fait, quand on considère la forme telle qu'elle a été inventée à ce moment-là, on parle, nous, d'un petit volant, c'est-à-dire des portiques avec des plateformes, des trapèzes suspendus, et le tout à faible hauteur avec un matelas, une sorte de tapis un peu épais, sur un plancher, pour que au cas où le trapéziste manque son trapèze, il ne tombe pas de trop, mais même pas de très haut, on peut se faire mal quand même, et qu'il atterrisse sur un tapis qui amortisse évidemment la chute. À partir du moment où on a commencé à ne plus utiliser un portique sur la piste, mais au contraire à suspendre les plateformes dans la coupole, évidemment on a gagné en hauteur, donc en prise de risque, et très 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 rapidement, c'est presque conjointement, on a développé le principe du filet qui donc est installé sur la piste, et ça permet aux trapézistes de voltiger, alors évidemment beaucoup plus haut. Le créateur du trapèze volant devait voltiger à 3 mètres du sol, peut-être à peu près 2,50 mètres, 3 mètres, parce que des gravures, malheureusement on n'a pas de photos, donc on peut l'imaginer, mais avec le principe du filet, on peut voltiger à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, sans difficulté. À partir du moment où on apprend, et c'est le point de départ de tout, à tomber dans le filet, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un filet, il faut savoir tomber dedans, et évidemment ne surtout pas s'agripper en tombant pour éviter de rebondir, parce qu'à ce moment-là, le filet vient à votre rencontre, oui. Et vous gardez les marques du filet pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce qu'évidemment c'est un choc brutal.
Et le grand prix du Festival du Cirque de Demain a été décerné cette année à Machine de Cirque pour leur planche coréenne rotative. En quoi consiste ce numéro ?
Alors la planche coréenne, c'est une... Comme son nom l'indique, est un principe, une planche avec une partie centrale qui permet un phénomène de bascule. Donc, on l'appelle aussi la bascule. Donc, là, c'est à l'origine, ça fait penser un peu au tapcul, les jeux d'enfants. Mais en Corée, c'est une pratique ancienne. Ça s'est développé à travers le monde, parce qu'une des caractéristiques des techniques ou des disciplines de cirque, c'est qu'elles sont capables d'essaimer très très loin et de se faire approprier par des gens qui, évidemment, ne sont pas dans le pays d'origine. Donc, c'est aussi ça, une forme de beauté de la transmission. Et donc, la planche coréenne, c'est un engin de propulsion. Et donc ça permet évidemment, avec énormément de précision, d'accomplir des sauts tout à fait extraordinaires. Donc ça suppose une très grande entente, un principe de communication entre les deux voltigeurs, puisque l'un propulse l'autre et inversement. Il y a une entente, une complicité absolument essentielle et déterminante. C'est très spectaculaire puisque ça participe de la verticalité, donc ça permet de propulser un corps très haut. Autant le trapèze volant est plutôt dans l'horizontalité, là la bascule ou la planche c'est la verticalité, et le fait que Machine de Cirque les poser sur une structure qui lui permet de pivoter, évidemment d'une part ça rend l'agrès moins plus figé, moins ouais. contraint. Et en même temps, ça permet aussi à toute une salle de vibrer à des prouesses qui sont souvent hors normes.
Et le Cirque Phénix est souvent décrit comme un grand spectacle sans animaux. Comment les autres cirques et le cirque en général s'adaptent ou s'est-il adapté déjà à l'interdiction des animaux ?
Les compagnies s'adaptent en fonction de leurs possibilités. En fait, ce principe d'interdiction, on le vit en France la loi sera effective en 2028, mais beaucoup d'entreprises ont déjà pris les devants, mais on n'a pas à réinventer la roue. Hein. Dans les années 20 en Angleterre, il y a déjà l'Animal Act. En 59 dans les pays scandinaves, une loi est promulguée et elle interdit la présence d'un certain nombre d'animaux exotiques. Aujourd'hui, il y a des dizaines de pays dans le monde qui ont voté cette loi. Donc, si vous voulez, le principe d'adaptation est constitutif du cirque. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, on imagine autre chose, on se réinvente. Ça fait partie même de l'histoire. Et puis un cirque allemand qui a imaginé des hologrammes, des animaux en hologramme. Il y en a d'autres qui ont joué l'hyperréalisme avec des acrobates dans une peau d'animal qui ont évidemment étudié de très très près la façon de bouger. C'est totalement bluffant. J'aurais tendance à dire que c'est même parfois étonnant parce que comme il n'y a plus de danger que l'ours polaire, par exemple, d'un seul coup devient un animal de proximité. Alors évidemment, tout ça est théâtralisé et joué, bien sûr, mais on peut s'imaginer que les plus petits peuvent s'approprier cet animal autrement, que ça peut être aussi une manière éducative d'expliquer que ces animaux-là, il y en a plus beaucoup, qu'il faut les protéger, etc. On voit bien, nous, au Phénix, quand on fait une parade avec des animaux factices, comment les enfants, ça devient une méga peluche, parce que quand c'est un éléphant à taille réelle, c'est vraiment très 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 gros, mais où, quand on a une girafe totalement stylisée, qui penche la tête et les petits sont tellement contents de la toucher, on se dit que le rapport à l'animalité, il est essentiel, parce qu'on peut pas se couper de l'animal, puisqu'on peut pas se couper de la nature, mais que peut-être cette notion d'animalité aujourd'hui, elle est forte et importante, qu'elle permet de prendre conscience d'autre chose, et que surtout, elle peut se révéler comme un argument spectaculaire absolument formidable.
Et enfin, comment vous voyez le cirque dans 20 ans ?
Alors, le cirque dans 20 ans, moi, je pense qu'il aura une dimension sociétale et politique, il sera de plus en plus ancré dans le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, que les spectacles seront des reflets de nos préoccupations, sans que ce soit autoritaire ou didactique, etc. Enfin, je pense qu'on peut questionner des problèmes de société, de vivre ensemble. Je pense à une compagnie qui s'appelle In Extremis, qui a fait il y a quelques années un spectacle sur le handicap, avec un acrobate malheureusement véritablement handicapé, avec un spectacle d'une intelligence totale, d'une sensibilité incroyable, avec un public qui prend plaisir, j'aurais envie de dire qui s'amuse, mais le sujet, évidemment, le principe n'est pas forcément drôle, mais qui s'amuse de la manière, finalement, dont l'artiste qui a un handicap lourd est capable de prendre le contrôle du plateau, en dépit de son handicap, et d'être le garant de la sécurité des autres. Et je trouve que la parabole est évidemment magnifique. Elle est touchante, le spectacle est fort, il est technique, il y a de l'acrobatie, il y a de l'humour, etc. Il y a une notion de participation avec le public. Et franchement, quand on sort de là, on se dit qu'il s'est passé quelque chose. Et je pense que le spectacle de cirque de demain, alors on va pas généraliser, mais une de ses caractéristiques, ce sera pour le spectateur de partir de la salle avec des devoirs à faire à la maison, quoi. De continuer de réfléchir à ce qu'il a vu et de se dire que pourquoi pas, quoi. Il y a d'autres façons de penser, de regarder et d'écouter l'autre.
Et face au numérique, alors, ça sera un allié, un ennemi ?
Encore une fois, je vous ai dit que le cirque était une éponge. Hein. Oui. Il est capable de s'approprier un certain nombre d'évolutions, de mutations, donc au-delà de sa propre forme. Donc, l'utilisation des technologies, notamment pour ce qui concerne les projections, par exemple, de l'image animée, la réalité augmentée, etc., tous ces éléments-là sont déjà intégrés dans des spectacles. Il ne faut pas en faire, évidemment, ni un gadget, ni un prétexte. Je pense que quand les technologies se mettent au service de la création ou de la créativité, ça renforce encore davantage ce que l'on offre et ça ouvre les portes de l'imaginaire pour le spectateur. Le cirque est toujours très 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 malin sur ce genre de choses. Et enrichir la forme sans jamais renier ses fondamentaux.
Merci beaucoup Pascal Jacob, directeur artistique du Cirque Phénix et du Festival mondial du Cirque de demain.
Eh bien, c'était avec plaisir.
Selon plusieurs études européennes, le cirque figure parmi les spectacles générant le plus fort taux de satisfaction émotionnelle chez les spectateurs. Plus de 80% du public déclare ressentir du plaisir, de l'émerveillement ou une diminution du stress après un spectacle vivant, et particulièrement lors de performances circassiennes. Petit Manu, tu nous en parlais donc du cirque.
En général, très peu, un mot pas facile à dire, t'as très bien dit, bravo.
Mêlant humour, prouesse physique et interaction directe avec les artistes, partons dans un univers à la fois magique et inspirant, un monde fascinant qui, vous allez l'entendre, a beaucoup à nous apprendre sur l'équilibre, le lâcher prise et la confiance en soi. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par Ponari. Et retrouvez la chronique bien-être.
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est captés sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même ?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotion.
La chronique bien-être de Ponari.
Aujourd'hui, je vous emmène sous le chapiteau. Ouais.
Chouette.
Ouais. C'est la fête.
Ah bah,
c'est
la fête.
Vous le savez peut-être, assister à un spectacle vivant comme le cirque ne fait pas que nous émerveiller. Cela a un vrai impact sur notre corps et notre esprit. Une étude en juillet 2025 de la University College of London a démontré que lorsque des gens regardent une performance en direct, leurs ondes cérébrales se synchronisent, ce qui traduit une attention partagée et un engagement émotionnel plus fort que lorsqu'on leur regarde la même performance seule sur vidéo. Le sentiment de bien-être peut augmenter jusqu'à 20% immédiatement après l'événement.
Alors c'est vrai que ça rejoint peut-être quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu sur les Netflix, TF1+, etc. Vous pouvez regarder une vidéo avec des amis à distance. Vous avez vu ça ?
Non,
tu nous l'apprends.
Sur TF1+, et sur d'autres plateformes, vous regardez un film avec un ami qui est à des kilomètres et des kilomètres, et vous le regardez ensemble. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, de partager le plaisir, ça augmente un petit peu le taux de satisfaction. Ouais.
Mais c'est peut-être nouveau, Nelly, parce que ça...
Oui, c'est assez nouveau.
Ah bah, je comprends.
C'est tous ensemble.
Tous ensemble. Pour savoir.
Et oui, en effet, juste en regardant des artistes donner le meilleur d'eux-mêmes, notre cerveau libère des hormones du bonheur, comme les endorphines et la dopamine. Les expériences culturelles partagées comme le cirque renforcent le sentiment de connexion sociale, ce qui est directement lié à une meilleure santé mentale.
Et petit Manu, lui, il libère pas de la dopamine, et je sais pas comment il fait, il libère de la kétamine.
Alors,
je
te raconte pas. Une question, c'est quoi la kétamine ? Je sais même pas ce que c'est.
La drogue.
Oh non, je suis pas
heureux,
ça.
Tu libères de la kétamine.
Non, je suis pas ça. Non. Et on peut lui dire, la dopamine, on trouve dans le soleil en ce moment, c'est important. La chaleur.
Et oui, être immergé dans un spectacle vivant favorise un état de pleine présence, réduisant le stress et l'anxiété. Le rire et l'émerveillement contribuent à une diminution significative du cortisol, l'hormone du...
stress.
Merci Marie-Christine.
Pas la cortisone.
Il y en a qu'une qui suit.
Effectivement, j'écoutais, je pensais à la cortisone. C'est pour ça que j'ai parlé.
Tu pensais à la cortisone.
C'est pas la même chose.
Tu fais bien de préciser. Alors
cortisol.
Là, tu nous auras pris quelque chose.
C'est pour ça qu'il en a pris beaucoup pour être heureux, mais ça marche pas, ça l'a gonflé.
Non, parce que je pensais. Et vraiment, t'as très bien répondu. Ponari, je te remercie. On apprend tout le monde.
Il a doublé de volume.
Non, mais j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose. Tant qu'il habite à l'espoir.
Du poids.
Merci beaucoup pour l'information.
Non. Donc pas seulement pour le spectacle, mais pour ce qu'il peut nous apprendre sur notre bien-être intérieur. Le cirque, c'est un univers à part, un monde où tout semble possible, mais derrière la magie, il y a une discipline, une présence et une maîtrise de soi incroyable. Prenons le funambule. En équilibre sur son fil, il avance pas à pas et il ne peut pas se permettre de penser à hier ni à demain. Donc il est entièrement dans l'instant présent. Et si finalement le cirque nous rappelait une chose essentielle, notre équilibre intérieur se trouve ici et
maintenant.
Et voilà. Dans nos vies souvent trop rapides, nous sommes comme des équilibristes distraits, pris entre le passé qui nous retient et le futur qui nous inquiète. Mais le bien-être commence quand on revient à cet instant précis, quand on respire et qu'on se recentre. Regardons aussi le jongleur. Il lance, il rattrape, il ajuste, il ne cherche pas à tout contrôler parfaitement, il s'adapte. Et si lâcher le contrôle était une forme d'intelligence ? Accepter que tout ne soit pas parfait, mais continuer à avancer avec fluidité. Le cirque, c'est aussi le courage, celui du trapéziste qui lâche prise pour attraper une autre main et ce moment suspendu dans le vide. C'est exactement ce que nous vivons lorsque nous osons sortir de notre zone de confort. Il y a une peur, oui, mais il y a surtout une confiance en soi, une confiance en la vie. Et puis, il y a les clowns, bien sûr, souvent perçus comme légers, parfois même maladroits, mais profondément humains. Ils nous rappellent que nous avons le droit de tomber, le droit de ne pas être parfait et surtout le droit d'en rire. Et le rire, justement, c'est un puissant outil de bien-être. Il relâche les tensions, libère les émotions et nous reconnecte à notre enfant intérieur. Alors aujourd'hui, peut-être que le cirque n'est pas seulement un spectacle, mais un miroir de nos propres vies. Un rappel que l'équilibre se cultive dans l'instant présent, le lâcher-prise est une force, le courage naît dans l'inconnu et la joie se trouve souvent dans la simplicité. Alors, je vous pose une question, et si vous étiez vous aussi l'artiste de votre propre vie ? Prenez soin de votre équilibre, apprenez à lâcher, osez et surtout, n'oubliez pas de sourire.
Eh ben merci beaucoup, bah, voilà. Ponari, merci pour cette analyse.
Mais c'est fou parce que tu nous apprends à chaque fois. J'ai l'impression que en permanence, les gens sont trop stressés et ils ne sont pas dans ce que tu dis.
Ils ne sont pas centrés.
Ils ne prêtent pas conscience. Non, parce que le dire, c'est important de le rappeler. Je pense que ça va faire du bien à un grand nombre de personnes. On prend le conscience en tous les cas.
Est-ce que vous avez déjà été au cirque, Eric ?
Oui, quand j'étais petit.
Tu t'aimais beaucoup ?
Plus mon père que moi.
Ah, d'accord, bon.
Non, moi, après, c'est ce qui m'inspire dans le cirque, c'est les motifs. Les motifs, les couleurs, ou ça me renvoyait souvent à l'Arlequin, motifs. Après, voilà, bah, ça rattache à des histoires, des bandes dessinées comme les comics ou les choses comme ça, mais pas le cirque en lui-même, en tout cas.
Et Kevin, t'as déjà été au cirque ?
Oui, je suis déjà allé au cirque, mais plus pour aller voir des concerts.
Ah, alors,
des spectacles, musical. Peut-être il y a très longtemps, mais récemment c'était plus pour voir des concerts. À Zamparo notamment, je ne sais pas si vous connaissez. Zingaro.
Zingaro, oui.
Voilà. Il chante au cirque.
Oui, tout à fait.
Bah, il y avait une chanteuse qui a chanté au cirque. Ouais, c'était ouais, j'étais la voix l'année dernière.
Mm-hmm. Et Marie-Christine, le cirque ?
Ah oui, moi j'adore.
T'adores ?
Ah oui. Oui, j'y vais tous les ans.
Ah oui ?
Non, ah, tous les ans.
Ouais,
c'est
toute
bien,
seule.
Bien.
Non, toute seule ou avec mes petits-enfants, mais...
Oui, mais ça m'est arrivé aussi, le plaisir, la convivialité.
Ah, puis j'aime bien.
On rentre, c'est vrai qu'on a envie de voir tout.
Non, mais c'est des performances exceptionnelles.
Et Ponari, t'as été au cirque ?
Oui, évidemment. Évidemment.
C'est quelque chose que t'aimes beaucoup.
Oui, oui. J'aime beaucoup avec les animaux aussi. Les trapézistes, je trouve ça impressionnant.
Les animaux, justement, quand tu les vois... Ça te fait de la peine ou tu te dis que, bon, ils sont bien traités ou...
Non, moi, je pense que c'est une discipline. En plus, ils ont dû vraiment les éduquer et les dresser, ces animaux-là. Donc, je pense qu'ils sont bien traités, j'espère.
Et tu t'es dit, j'espère que mon chien, il pourra faire la même chose chez moi. Ça serait bien.
Avec un cerceau. Allez, hop.
Et toi, Didier, t'as été quand t'étais plus jeune, petit garçon ?
Alors, moi, j'ai été deux fois. Et dont une fois où j'étais aux premières loges. Et donc, il y avait une immense roue. Il y avait deux garçons, deux jumeaux qui couraient. Ils étaient trois avant. Mmh. Et là, j'étais devant. Et il y en a un qui se loupe des mètres de dizaines de hauteur. Ouais. Et là, il s'écrase devant moi. Il y avait du sang partout. Je ne sais pas dans quel état il est, si il n'est pas mort, mais il gigotait comme ça. Et donc, le maître de cérémonie, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, il est venu, il fait « Vous inquiétez pas, c'est impressionnant, mais ça continue !» Puis l'autre, il était en train de gigoter.
Tu vas couper.
Ça a dû te marquer, quoi.
Quand j'ai vu le mec, tu sais, louper la marche, et tomber, je me suis dit « Il y a un truc, il va se rattraper. »
Il n'y a pas de filet.
Et donc là, il s'écrase, je ne sais pas dans quel état il est. On a demandé après, on nous a dit, parce que moi j'étais intervenu en tant que journaliste, on nous a dit, il va très bien, c'est impressionnant, mais il va très bien. Je sais pas.
Genre ça lui est déjà arrivé en fait. Il a minimisé le truc.
Chute,
quoi.
Là,
Mais ce qu'il faut dans ce milieu-là, c'est The Show Must Go On, le spectacle doit continuer, quoi qu'il arrive. C'est fou,
Il y avait beaucoup d'accidents.
Il
y a beaucoup d'accidents quand même. Enfin, il y a des accidents.
Moi, il y a des numéros qui me stressent en fait, quand je vois, même avant ça. Je me dis, j'ose pas regarder parce que je me dis, il va tomber au pire, il y a un filet, il va pas réussir et ça me gêne. Il y a des numéros qui me stressent.
Ah,
en fait.
Oui.
Donc, je ne sais pas, vous, quel est votre numéro préféré?
D'ailleurs, pendant plusieurs années, le cirque pouvait se regarder à la télé. Vous savez dans quelle émission?
Sur France 3, le présenté par Serge.
Voilà, le plus grand cabaret du monde.
Non, mais c'était remarquable. Cette émission était remarquable, le grand cabaret. Là.
Et votre numéro préféré au cirque?
J'aime tout, j'aime bien les clowns, j'adore les clowns, et... enfin les bons clowns, quoi. Mais j'adore ça, j'adore les animaux, j'adore les... ces hommes qui sont en l'air, non, je trouve
la
ça magnifique.
La voltige aussi.
Et puis c'est vrai que le grand cabaret, il y avait aussi des numéros de prestidigitation, des costumes, enfin tout ça, c'est plaisant.
Puis les gens donnent des poignards aussi, comme ça, qui mangent comme ça, c'est...
Eric, toi, t'aimes les clowns, c'est les clowns tes préférés.
Ouais. Pas spécialement. Non, et leur sort de couteau, c'est pas mal, ça.
Ça me stresse. Pareil, c'est quelque chose.
Avec la pomme au-dessus de la tête.
Quand je regarde ça, oui. Moi, ça me stresse. En fait.
Moi aussi.
C'est... Ouais, c'est... Oui, c'est vrai que c'est...
J'aime pas tout, en fait. C'est des trucs dangereux, quoi.
C'est
le Ponari, ton numéro préféré, c'est avec des animaux. Un petit chien.
Des animaux, toujours.
Petit caniche.
Les tigres, les lions, les fauves, c'est impressionnant.
Le petit chien qui est sur une girafe, qui est sur un éléphant. Non, il n'y a pas ça.
Non, non. Non, des fois, il y a des chiens aussi, effectivement. Aussi, il faut aussi ça. C'est... Maintenant, c'est interdit, mais.
Maintenant, c'est plus
comme
possible.
Comme disait Frédéric Dienstedt, oh, mes gros chats. Mais il en parlait aussi. Et maintenant, il a toujours bien dit, quoi. C'est une pindère.
Et nous ouvrons notre page culture pop et musicale. Roulement de tambour, mélodie entraînante. Depuis toujours, la musique accompagne les numéros, donne le tempo aux acrobates. Impossible d'ailleurs de ne pas évoquer l'univers musical du Cirque du Soleil, où chaque création repose sur une bande-son originale, pensée comme un véritable personnage du spectacle. Mais l'univers du cirque a aussi inspiré les artistes. Qui sont ceux qui en parlent le mieux? La réponse dans le quiz de... Eric!
Non, Kevin! Je me suis trompé! Musical avec Kevin! Les libres? Avec notre cher ami Eric, je suppose très bien, oh là là, grandiose.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz, attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu, je vais me porter sur un truc.
Mais sautera les amis.
Et l'univers du cirque a aussi inspiré les artistes à travers leurs chansons. Je vous propose quelques titres et à vous de reconnaître de quel artiste il s'agit. On commence avec la première chanson. Allegria, come un lampo di vita, allegria. C'est la musique d'un célèbre cirque.
Pindère ?
Hein ?
Cirque Pindère au hasard.
Ouais.
Cirque du Soleil ?
Ouais, Cirque du Soleil, tout à fait. La chanson s'appelle Allegria. Alors, le Cirque du Soleil a été mis en scène par Franco Dragone et la première a eu lieu à Montréal. Vous savez où ça se situe, Montréal?
Au
Canada,
bien sûr. Au
Brésil?
Non, au Canada, je dis au Canada.
Au Brésil du Canada?
On se comprend,
ça va de soi.
Au Canada.
Et la première, pour la petite histoire, la première a eu lieu il y a tout juste 32 ans, en avril 1994. Et le cirque est arrivé à Paris à la rentrée, pour la première fois à la rentrée 94, au mois de septembre. On passe maintenant à un célèbre chanteur qui nous a quittés il y a bientôt 56 ans, il y a plus de 50 ans en tout cas. De qui il s'agit à votre avis?
Le cirque est là, partout c'est la fête.
C'est pas Louis
Mariano. Doute,
c'est...
Voilà, Luis Mariano.
Ah,
c'est de mon temps.
Luis Mariano, espagnol, c'est vrai.
C'est le célèbre chanteur d'opérette, Luis Mariano, avec cette chanson intitulée Le cirque est là. Alors cette chanson, elle célèbre l'arrivée du cirque en ville. Elle décrit à la fois l'excitation, la fête, la magie et l'émerveillement que provoque cet événement, notamment chez les enfants. Car oui, le cirque est très prisé chez les enfants, même en 2026. Et cette chanson, ça célèbre l'univers joyeux, à la fois festif et ça décrit le cirque comme un symbole de rêve et d'évasion. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette chanson.
Le cirque est là, partout c'est la fête, la ville est prête à rire aux éclats. Le cirque est là, voici la parade, les nains gambadent dans le brouhaha.
On passe à un chanteur français.
Lance la terre au milieu des étoiles. Dresse le chapiteau.
C'est pas Philippe
Châtel. Un soleil.
Non, c'est un certain Yves, mais pas Yves Montand.
Yves Duteil.
Yves Duteil. Ah oui. Tout à fait, Marie-Christine.
Et qui est même mère aussi.
Je suis enfant, ah, ouais. Aujourd'hui.
Ah, c'est Yves Duteil. Ah oui. Philippe Châtel.
Yves Duteil qui a maintenant, je crois, 75 ans. Il n'est pas mort, il est encore vivant.
Non, non, il est de mon âge.
Toujours vivant. Oui.
Alors Yves Duteil, cette chanson, sa chanson s'intitule « Le cirque ». C'est une chanson poétique et nostalgique qui évoque le regard émerveillé d'un enfant face à l'univers du cirque, un peu dans la même veine que « Le cirque est là » de Luis Mariano. Et à travers des images douces et sensibles, il raconte l'arrivée du cirque, les numéros, les artistes et l'émotion que cela suscite. Et dans cette chanson, le cirque est présenté comme un monde magique presque hors du temps. Il y a dans cette chanson une certaine mélancolie, comme si cette magie était fragile ou éphémère. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette chanson d'Yves Duteil. Et on passe à une chanteuse internationale avec cette dernière chanson.
Britney Spears.
Ah oui,
Britney Spears, absolument. Avec cette chanson intitulée Circus, qui veut dire...
Cirque.
Bah oui. Et oui, hein, dans cette chanson Circus de Britney Spears, le cirque est une métaphore de la célébrité et Britney Spears se compare à une meneuse de spectacle sous les projecteurs où tout le monde la regarde et attend qu'elle performe. Le cirque évoque le show business, la pression médiatique et elle se positionne comme la chef d'orchestre du spectacle. Je propose qu'on écoute un extrait de cette chanson de Britney Spears. Merci à tous. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, enfin?
Kevin, un autre chanteur qu'on a oublié, Jean-Luc Lahaye, qui à sa façon a fait une chanson, Les Jongleurs, et il parle du cirque, de tout cirque en particulier. Mais pas, en revanche, la chanson de Yves Duteil, elle est pratiquement pas connue.
Je suis là pour vous faire découvrir.
En tout cas, moi,
choses,
je suis très reconnaissant et je pense que le public, il sera aussi. Bravo, quelque chose merci. Qu'on apprend à tout moment. Voilà.
Eh bien, merci, Kevin. Et on va écouter un titre en entier.
Eh bien, moi, je vous propose d'écouter Luis Mariano, Le Cirque est là.
Le cirque est là, partout c'est la fête. La ville est prête à rire aux éclats. Le cirque est là, voici la parade. Les nains gambadent dans le brouhaha. Monsieur le clown s'appelle Boum. Les éléphants sont bons enfants. Et les dompteurs sont jolis cœurs pour les girls. Le cirque est là, adieu toutes les peines. Les joies reviennent, ces jours de gala. Et nous aussi, nos cœurs sont en fête, puisque vous êtes ce soir nos amis. Je me souviens en vous voyant, quand je venais avec maman. Nous nous mettions au premier rang. Que c'était beau, que c'était beau. Le cirque est là, partout c'est la fête. La ville est prête à rire aux éclats. Le cirque est là, voici la parade. Les nains gambadent dans le brouhaha. Monsieur le clown s'appelle Boum. Les éléphants sont bons enfants et les dompteurs sont jolis cœurs pour les girls. Le cirque est là, adieu toutes les peines. Les joies reviennent, c'est jour de gala. Le cirque est là, partout c'est la fête. La ville est prête à rire aux éclats.
Luis Mariano, le cirque est là.
On termine cette émission par de la culture
pop.
Avec notre cher ami Eric Didier.
Voilà.
On passe à le livre, le book.
Les clowns sont de sortie.
Les clowns, pas les livres. Non, mais, parce qu'il avait dit, il a dit les livres.
Non, je veux dire, les livres en général, mais les clowns.
Je suis pas Pierre Belmar.
Non, les livres en particulier. Alors. Les clowns en particulier, ils vont très bien.
Oui, on va parler de clowns qui sont de sortie dans la pop culture, hors du cirque, et parfois ça fait peur. Récemment, on a revu le clown Gripsou de la saga Hit de l'auteur Stephen
King,
avec la série Bienvenue à Derry, que vous avez peut-être vu. Moi, je l'ai vu en tout cas.
Ah, je l'ai pas vu.
Non,
je connais
pas. Personne n'a vu cette série.
Je connais pas.
Vous vous rappelez le clown là qui fait terriblement peur, qui est dans le caniveau? À peu près comme moi l'autre fois, mais parce que j'étais tombé.
Ah non, rien non. À voir. Alors j'adore comment il parle. Il ne lui parle.
Ça te dit rien le clown qui est dans le caniveau?
Moi je faisais le clown blanc Auguste. Et avec un clown,
il y a un clown qui est dans un caniveau dans un film.
Ah, c'est possible, mais.
Bon, Marie-Christine, c'est pas ton époque, donc non.
Voilà, non, mais je ne fais pas du cinéma, moi.
Bah, il y a pas l'air de
ça. Le film ça.
Oui, si vous, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose.
Il y a la série.
Ah, d'accord.
Le clown, la série Le Clown.
D'accord.
La série Le Clown.
Non, ah, oui. La série s'appelle Bienvenue à Derry.
Ah, d'accord, Bienvenue à Derry. Effectivement,
il y avait une série qui s'appelait Le Clown aussi.
Effectivement, c'est moi, je connaissais la série. Puis le film Le Plus Grand Cabaret, il y avait un film très connu aux États-Unis aussi.
Et on a aussi revu le clown dégingandé et mutique, habillé de blanc et de noir avec le film Terrifier 3. D'autres personnages empruntent les codes du cirque pour répandre la terreur, comme le Joker et Harley Quinn dans la célèbre saga du Chevalier Noir. Si l'on remonte aux origines, on trouve les Freaks Show, un divertissement comme l'est encore le cirque aujourd'hui, où on y voit des personnes mises en spectacle pour leur apparence, lilliputiens, femmes à barbe, hommes troncs ou encore siamois. On les retrouve aussi dans la pop culture, mais parfois injustement classés dans le genre horreur et maléfique. Le clown en a en quelque peu hérité. Le clown est aussi une icône pop, comme peuvent l'être Bozo le clown ou encore Rusty Nails, tous deux personnages fictifs et clowns de télévision américaine entre les années 40 et 60. Petit Manu s'en souvient peut-être.
J'étais pas encore né à ce moment-là. Mais j'adore comment tu n'as avec conviction. On t'écoute avec grande attention, Didier. Tu nous apprends beaucoup.
Eh ben Eric nous en donne la preuve dans sa chronique avec deux clowns qui sentent le burger. Vous allez comprendre pourquoi.
Oui, oui.
Vous avez peut-être un peu compris.
Je préfère qu'il parle.
Les clowns qui sentent le burger.
Bah, c'est la nourriture.
Il parle de qui?
Burger. Bon, on verra.
Bon, Marie-Christine, c'est pas
McDonald's.
Le McDonald's, bien sûr. Ah non, le McDonald's, bien sûr.
Et pourtant, je pensais au bouffon du roi aussi.
Voilà.
Oh là là là.
McDonald's. En piste pour la pop chronique d'Eric. Retrouvez la nouvelle chronique d'Eric.
Ah, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique autour de la culture pop.
Une culture pop. Jazz. Pop. Boum, 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 boum.
L'arrivée de nouvelles figurines pop, plus connues sous le nom de Funko Pop. Vous savez ces figurines en vinyle avec une grosse tête et un petit corps?
Il va nous étonner, Eric. Oh là 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 là.
Alors, vous l'avez deviné, hein? Même si Ronald McDonald a disparu du paysage de la pop culture, il n'en reste pas moins la mascotte d'une grande chaîne de restauration rapide.
Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu.
Oui.
Et il a vraiment disparu? Ils l'ont vraiment supprimé?
Oui, ils l'ont retiré.
Ah, j'ai même pas fait gaffe.
Je vais vous raconter pourquoi, mais avant, retournons à ses origines en 1963. où la firme McDonald's décide d'embaucher l'acteur Willard Herman Scott pour camper le rôle du célèbre clown dans des clips et publicités à la télévision.
Oui.
Alors très vite, l'emblème devient populaire, il est présent dans les menus en figurines, donc il y a tout un univers, hein, rappelez-vous, qui est créé autour de lui, avec des personnages aussi étranges que lui, on le retrouve en bande dessinée, il y a même des épisodes en prise de vue réelle et aussi un dessin animé à son nom. Alors je me souviens plus des personnages qui étaient autour, hein. Bon, je sais peut-être que vous vous souvenez de ces personnages autour de Ronald McDonald, hein. Il y avait un hamburger, il me semblait, un garçon habillé en 11 euros, donc tout ça, c'est parti.
C'était assez symbolique, chaque chose qu'on présentait.
Tu te rappelles Ronald McDonald?
Oui, je connais.
Tu lui as fait la bise il y a quelques années.
Non, effectivement, moi je l'ai vu au McDonald's Place d'Italie.
Tu lui as fait la bise.
J'étais encore à l'école. Mais
ouais, ça date.
Ah oui, ça date de ça, c'est vrai. Et à chaque fois j'y vais.
1960.
Ah ouais, bah oui, il était là.
Vous rigolez. Mais à chaque fois j'y vais à ce McDonald's, je viens à ce McDonald's, c'est sentimental. Et ils me connaissent à la fin. Et ils me disent, mais ceci dit, je découvre ce que tu dis. Tu parles. On te remercie.
Vous me direz, hein, pour la grande firme, hein, c'est étrange d'avoir pensé à un clown. Eh bien, pas tant que ça. Comme vous le savez, le clown n'a pas besoin d'être toujours rattaché à son cirque, et c'est d'ailleurs en cela qu'il est soit inquiétant ou soit l'ami de tous. Dans tous les cas, il reste un symbole. Entre les années 40 et 60, comme tu disais Didier, un clown était très connu chez nos amis les ricains. Il s'agissait de Bozo le clown, rendu célèbre par des histoires audio, hein, en vinyle, qui apparaîtront par la suite à la télévision et en dessin animé. C'est un parfait modèle de communication. McDonald's a alors pris cette idée justement et inclut un clown dans des publicités télévisuelles en le baptisant Ronald
McDonald.
Si Ronald a disparu des radars, c'est à cause de son image liée à la malbouffe. Donc il y avait déjà cette idée où c'était rapporté longtemps où manger McDonald's n'était pas très bon. Avec le fameux documentaire que vous avez
Big.
C'est ça, c'est exactement, ça. Voilà. Donc il y a eu déjà cette vague-là.
Mais c'est quel rapport avec le clown?
Bah oui.
Eh bien, c'est parce qu'en fait, c'était rattaché à juste l'image. Et comme il y avait une idée de rendre les choses de McDonald's équilibrées, donc on voit bien dans les menus enfants, ils ont remplacé les frites avec les carottes, ouais. La compote. Donc voilà, ils ont dit.
Il y a des carottes frites. Tout est frit maintenant, c'est des légumes dedans.
Autrement dit, c'est symbolique. D'après, on comprend ce que tu dis. C'est symbolique.
Voilà, mais ils veulent changer de genre.
C'est ça, voilà. Mais c'est surtout lié à des faits divers impliquant des agressions au couteau par des individus déguisés en clown. Donc en Amérique, c'est vrai que c'était il y a un fait divers comme ça où des personnes se déguisant en clown effrayaient les passants avec des couteaux. Donc ils poursuivaient même des enfants. Dans les forêts, donc c'était vraiment un fait divers marquant, et c'était pas une très bonne image pour McDonald's, puisque Ronald McDonald était un clown. Face à cela, la grande firme de restauration a décidé de mettre à la porte le cirque du grand clown à la tenue jaune et rouge, et le remplacer par ce qu'on connaît aujourd'hui avec un M sur un fond rouge.
Alors vert maintenant.
Vert, oui, tout à fait. Bah voilà, ouais. Et vert pour l'équilibre.
Bah voilà, dans cette idée-là, je pense.
Et on dit que le vert c'est couleur de l'espérance. Hein.
Pas plutôt l'équilibre.
Ça fait bio, quoi. Bah oui,
voilà, ça fait bio, donc.
Et tout. Exactement.
C'est la couleur du printemps.
Oh, exactement. Bien dit.
Une trèfle à quatre feuilles.
Voilà, bon, on peut aller très loin si on veut.
Ça porte chance au théâtre.
Voilà. Ça...
Ah, justement, faut jamais porter du vert au théâtre.
Ah, c'est l'inverse, pardon.
Ah, ça porte la poisse. Hein. Oh, pour les comédiens, c'est une superstition. Ah, faut jamais porter.
C'est du peut-être vert. À cause de moi que t'as eu la poisse alors.
Non, mais je dis ça d'origine.
La casquette verte que je t'ai achetée avec le t-shirt vert et les chaussures vertes.
Oui,
Avant ta première au théâtre.
Tu comprends peut-être.
Tu fait un flop.
Tu comprends plutôt avec la chanson de Dorothée qui va revenir. Les chaussettes. Non, je suis un peu du bon, mais.
Ouais, elle est déjà revenue, Dorothée.
Elle est déjà revenue. Mais ça fait
et ça cartonne.
Et pareil, ça cartonne. Reprends, mon cher Eric.
Alors, partez pas tout de suite, hein, car dans ma chronique, je vous sers encore un burger à la sauce Bozo le clown. L'image de ce clown a inspiré un autre personnage connu de la pop culture. Non, ça vous dit rien?
Burger.
Et exactement, c'est ça. Ah bah. Voilà, je vois qu'il y a un fan de clown.
Krusty le clown, tu sais qui c'est, petit menu?
Bah non, moi j'ai découvert. Je reconnais.
C'est dans un dessin animé.
Oui, nous sommes des grands enfants.
Kevin. Dans quel dessin animé?
Je sais plus, ça veut entendre.
Ils sont jaunes.
Ça ne dit rien. Ouais. Sont... Moi, je suis un qui est là.
Pikachu qui...
Ah, Pikachu.
Ah, ça fait un bon mix, hein.
Ah, oui.
En effet, il s'agit de Krusty, et oui, le célèbre clown des Simpsons.
Ah, les Simpsons.
Ah, oui, avec Bart aussi, Bart.
Alors, pour être plus précis, c'est la voix de l'acteur qui jouait Bozo à la télé qui a inspiré Matt Groening, hein, l'auteur des Simpsons. Et si vous prenez un shaker et vous mélangez la voix de Bozo interprétée et vous mélangez un autre clown de télévision d'époque, Rusty Knight, hein, que tu l'évoquais au début, vous obtenez Krusty le clown.
D'accord.
Et tu sais que Krusty le clown devait être en fait Homer au début. Ça devait être le même personnage.
Mais avait en clown.
Ils ont abandonné en cours de route.
C'est ça, voilà. Ah bah j'ai pas de secret pour toi, Didier.
Ah ouais, donc autrement dit, il est au courant. Oh là là.
J'ai même regardé la saison 0 avec les petits épisodes là qui n'ont jamais été mis en saison 1.
J'ai l'impression que c'est pas à peine de lui faire de travail, il va le dire, il va mettre les pinceaux en libat sur les tirs.
Ah bah. Parce que j'essaye d'en parler à petit Manu, mais il confond Bart Simpson et Mario Bros.
Ah oui, oula.
Non, c'est pas la même chose. Je suis pas connaissant, je reconnais, mais j'arrive à faire la différence. Mais au moins, il suit très bien.
Alors, pour décrire Krusty à ceux qui ne connaissent pas, donc Krusty, c'est un clown qui passe à l'antenne avec son acolyte coéquipier, Taiki Mail, en faisant des blagues et en faisant semblant d'adorer les enfants. Parce que... En vrai, il n'adore pas vraiment les enfants. Donc dans son émission, il propose des numéros et présente et annonce des programmes comme par exemple Itchy et Scratchy. Oui. Très attaché à son travail et souvent dépressif et toxicomane, il a souvent des ennuis à cause de ses apparitions polémiques. Alors son vrai nom, c'est Herschel Christofowski. Il vient d'une famille juive. Son père en est d'ailleurs rabbin de la communauté. Et apprenant que son fils serait comédien, la relation avec Krusty s'est quelque peu détériorée. Il était un peu frustré que son fils soit comédien, simplement. Et pire que ça, clown pour lui. Et en même temps, son père avait tort car il est devenu un clown milliardaire. Hein. Il est très très riche dans la série.
Donc autrement dit, il a réussi sa carrière, ça a été médiatisé.
C'est ça, un peu comme toi.
Ah non, j'ai pas assez de chance là, mais...
Manu, tu regarderas les 36 saisons des Simpsons.
J'y penserai, d'accord.
Pour prendre des leçons.
Moi, je suis riche dans mon cœur, après j'ai quand même été à ça. On t'écoute.
Alors, sa richesse provient de sa chaîne de restauration rapide, lui aussi, le Krusty Burger. Qui multiplie les produits de malbouffe. Hein. Hein, je vous ai dit que ça allait parler de burgers aujourd'hui. Alors le clown...
Tu donnes faim.
Oui. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bien, je suis à la fin de l'émission.
C'est l'heure.
Le clown de la ville de Springfield est hélas vu comme le vieux ringard qui perdure à la télévision et raconte qu'il est devenu célèbre grâce à une émission télévisuelle, The Krusty the Clown Show. Décidément, quand les clowns ne sont pas au cirque, ils sont à la télévision. Amis de la pop culture, si vous vous sentez tout drôle après ma chronique, ce n'est pas à cause des burgers cités, mais plutôt à cause des clowns côtoyés. Un seul remède, rendez-vous au cirque.
Moi, je veux te féliciter parce que on connaissait pas et Didier et tu t'es pas déconcentré. T'as un charisme. Oh, t'as fait preuve de philosophie, Eric. Bravo. Alors, j'avoue.
Alors, Eric, moi, j'ai une question. Mais faut reconnaître, ça m'a toujours paru bizarre. Pourquoi les clowns, ils sont méchants dans la pop culture?
Ah oui, pourquoi?
Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire.
Après, les clowns ont un côté dérangeant, hein. Ils font peur à certaines personnes. J'ai vu une recherche comme ça que les clowns dérangeaient.
C'est vrai qu'ils sont autant maquillés que ma grande-tante, mais c'est... Elle fait peur.
Ah bon? Tu t'en parles?
Non, j'avais trouvé ça toujours un petit peu bizarre que des clowns, dans la vraie vie, c'est fait pour s'amuser.
Bah oui, normalement.
Et au cinéma, ça a complètement une autre image.
Ouais, c'est vrai que c'est étrange, ouais.
Très souvent. Mmh. Et c'est un maquillage censé être rigolo, quoi.
Bah oui. Ah non, mais c'est une très bonne
marge, j'imagine, petit Manu en clown. Je sais pas si je vais rassurer la nuit.
Chacun sa profession.
Bah, je trouve qu'un nez rouge, ça tirait bien. Hein.
Oui, mais n'importe qui, mais je suis moi-même. En tout cas, t'as fait une très bonne chronique, je peux être très fier de toi.
Ah, merci.
Ça n'a pas été facile, il y a Didier qui connaissait, mais tu ne t'es pas laissé déconcentrer. Bravo, Eric.
Eh ben, merci, Eric. Et cette émission sur le cirque, c'est déjà fini. Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite une citation d'un célèbre directeur de cirque français. C'est qui, à votre avis? Un certain Alexis.
Grusse, qui a une grande passion pour les chevaux, qui les élève aussi.
Tout à fait. Il a dit ceci. Le cirque est le nom d'un lieu et non d'un spectacle. C'est la piste de 13 mètres de diamètre.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Alors, c'est une sorte de théâtre.
Oui, c'est...
Le théâtre Saint-Thomas.
De quoi? Qu'est-ce qu'il
veut dire? Bah non, mais c'est vrai.
Le prochain thème, c'est le théâtre Saint-Thomas.
Du théâtre Saint-Thomas.
Alors attends, redis petit Manu où tu as vu ça.
Le théâtre Bélier Zone Indico. Non,
ça c'est la sortie de Marie-Christine, je crois.
C'est Marie-Christine.
C'est les chiens
C'est Marie-Christine qui a mis dans l'agenda de Big Bang ses sorties personnelles.
Excusez-moi.
Les sorties, non, non, ça pourrait faire les sorties culturelles de Marie-Christine.
Je me suis trompé. Non, c'est...
Alors, cette semaine, nous verrons.
Vous savez tout.
Voilà, bon, excuse-moi, je voulais pas raconter.
J'ai failli me tromper un matin, je me dis j'ai rendez-vous là, c'est très bizarre.
Mais oui, parce que moi aussi je le vois affiché, je dis c'est étrange.
Comment ça se fait?
Bah, je sais pas.
Tu t'es trompé d'agenda. Tu as mis sur l'agenda de Big Bang Station.
Voilà,
on va tout savoir.
Je me suis dit, va raconter ta vie privée. Oh, je te remercie, Eric, d'avoir pris le temps pour l'école. Effectivement, c'est les chiens guides qui rendent bien service. Oh là 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 là.
Ça bah, salut à toutes et à tous, ouais. À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Salut.
Bye.
J'espère que vous allez bien profiter.
Ok, let's stop. IDFM Radio, le média valdoisien.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val-d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
On se donne rendez-vous chaque lundi à partir de 22h avec moi-même Vince dans l'émission Positive Vibration Time pour un voyage musical qui prend son départ dans le ska jamaïcain pour arriver aux New Roots et au dub. Par le biais du format vinyle, je vous ferai découvrir des morceaux connus ou tombés dans l'oubli. Les dernières sorties d'albums et de singles, des exclusivités, des invités d'exception prêts à vous faire découvrir leur univers artistique. Grâce à des interviews et des lives, vous pourrez plonger dans les coulisses de leur création. Positive Vibration Time, tous les lundis de 22h à minuit sur IDFM Radio 98 FM.